Bien, je pense qu'on va commencer. Bonjour tout le monde. Le sujet de cette table ronde, en relation bien sûr avec la thématique des utopiales, intelligence, c'est la question de l'intelligence et de la surveillance dans les séries télévisées britanniques. En particulier, vous avez vu dans le texte, sont citées trois séries mythiques ou iconiques. The Avengers, donc Chapeau Blanc et Bottes de Cuir, Le Prisonnier et Amicalement Vôtre. On va partir sans doute de là, un peu plus tard, mais on essaiera d'aller beaucoup plus loin, peut-être dans le contemporain, et aussi établir peut-être des relations entre les œuvres ou les discours des uns et des autres. Alors je vais d'abord commencer par vous présenter les quatre invités. Donc, à ma droite, Sylvie Denis, qui est nouvelliste, romancière, anthologiste, rédactrice en chef de la revue Cyber Dreams, qui a été rédactrice en chef de la revue Cyber Dreams, pardon, c'est le temps. Traductrice de romans de SF et fantasy, donc Greg Egan, dont quelques grands auteurs comme Greg Egan et Stephen Baxter, je ne dis pas tout, qui a écrit un recueil de nouvelles, qui s'appelle un recueil de nouvelles Jardin virtuel en 2003, et Haute École, qui a reçu le prix Julia Verlanger. Plus récemment, donc, elle a rédigé un diptyque, publié aux éditions de La Talente, La saison des singes et l'empire du sommeil, très beau titre, relevant peut-être largement du space opéra, également deux romans jeunesse. Et elle s'intéresse beaucoup dans ses romans aux nouvelles technologies et à leurs conséquences sur l'humain, sur les sociétés et sur l'humain en général. Et j'ai noté dans l'une de ses nouvelles, juste pour une petite anecdote, qu'elle semblait préférer, en tout cas ses personnages et peut-être elle-même, préfère Peter Pan à Walt Disney. Ensuite, Étienne Barillier, alors ce n'était pas dans l'ordre que j'avais prévu, mais comme ça, voilà, qui est professeur à Limoges, essayiste spécialiste des littératures populaires. Il y a un centre de recherche important à l'Université de Limoges sur littérature populaire, où notamment se trouve Irène Langlais, grande spécialiste de la science-fiction. Il est biographe, on peut dire biographe imaginaire, comme d'autres, comme Xavier Mauméjean, par exemple, que vous connaissez sans doute. Et il a publié une biographie de Fantomas, maître du crime, qui s'intitule Les nombreuses vies de Fantomas en 2006. Et il a publié également, c'est un dickien très reconnu, il a publié Le Petit Guide à Trimballer de Philippe K. Dick en 2012. Donc c'est recommandé à tous les amateurs de Philippe K. Dick. Je suppose qu'il y en a un certain nombre parmi vous. Il anime d'ailleurs un site sur l'écrivain. Il pourra peut-être vous en parler. Ses derniers travaux tournent autour du steampunk, qui est un mouvement très important, à la fois un phénomène de société et un mouvement, disons, important dans la littérature, le cinéma, la bande dessinée, le roman graphique, avec notamment Alan Moore, par exemple, pour ne citer que lui, mais certaines versions de Sherlock Holmes très contemporaines sont aussi très steampunk, donc on pourra en reparler. Et donc ces ouvrages, c'est steampunk, l'esthétique rétro-futuriste, la question du rétro-futurisme aussi, le guide steampunk en 2013 et tout le steampunk qui vient de paraître donc en 2014. Toujours à côté de lui, donc Lionel, non, pardon, Léo Henry. Léo Henry qui est nouvelliste, scénariste de bande dessinée, donc on voit bien le lien là encore, qui a publié plusieurs recueils de nouvelles, donc Les Cahiers du Labyrinthe en 2003, Le Diable est au piano en 2013, et puis plusieurs autres recueils, dont deux co-signés avec Jacques Mucchielli, qui est également l'auteur d'un cycle de BD, le cycle Sequana, qui est tout à fait original dans le sens où sa thématique, ce sont les inondations à Paris, les crues à Paris en 1910, donc un sujet assez original. Et qui permet de faire se rencontrer des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer, un évêque, un malfrat et une jeune bourgeoise. Il a publié également deux romans, Rouge gueule de bois, aux éditions de La Volte, et Le casse du continuum, en folio SF, sorti directement en 2014. Il y en a des piles à côté, on pourrait voir. Et il publie également chaque mois sur le net une nouvelle inédite. Donc ça, c'est aussi un des rapports intéressants par rapport à tous les écrivains. Il est d'autre part passionné par l'Amazonie, tant que je sache, et admirateur aussi d'Alan Moore, donc un lien avec Étienne Barillier, également de La Maison des Feuilles de Danielewski, qui est un des romans, on pourrait dire hypertextuel, tout à fait original, un des premiers du genre, donc il est publié d'ailleurs d'abord sur Internet avant d'être publié en livre. Et enfin, pardon, Lionel Davoust, qui a au départ une formation d'ingénieur, un double diplôme d'ingénieur, qui a publié un premier roman, La volonté du dragon, qui est en fait, me semble-t-il, à l'origine du cycle qu'il est en train de développer et pour lequel il y a un portail, Evanegir, qui est un monde de fantasy steampunk, donc lien avec Étienne Barillier là aussi, avec une fantasy, avec une recherche de vraisemblance historique, ce qui est d'ailleurs aussi le cas du steampunk. Mais avec des sujets, des personnages, de mages, une technologie magique, le art tech, qui peut dire aussi autre chose. Donc, et également un mélange des genres, thriller, fantasy urbaine. Parmi ses autres œuvres, on peut citer la trilogie Le Mystère Léviathan, qui là aussi évolue entre différents genres. Les trois romans, le dernier était publié en 2013. Le pouvoir, le premier s'appelle La chute, le deuxième La nuit. Voilà. On voit que dans toutes ces œuvres, il y a un certain nombre de points communs. Donc on pourra en reparler. Les nouvelles technologies, les intelligences artificielles, mais aussi l'hybridité donc, entre policiers et science-fiction, la présence des intrigues criminelles, la paranoïa, les questions de pouvoir. Et évidemment, la surveillance, hein, la notion de la surveillance, également la simulation, le simulacre, donc l'élément dickien, etc. Et aussi, au niveau des pratiques d'écrivains, de diffusion des œuvres, etc., l'utilisation d'Internet. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui est commun, enfin, à certains d'entre vous en tout cas. Donc, ce sujet est très vaste. Et on va le rendre encore plus vaste à certains égards. Mais il est circonscrit par les notions d'intelligence et surveillance. On ne va pas parler de toutes les séries britanniques parce qu'il faudrait beaucoup d'heures pour en parler. On ne parlera pas, par exemple, de Cosmos 1999, qui est une très belle série de télévision britannique entre 75 et 77. Mais par contre, le thème des utopiales aidant, on va parler d'intelligence qui a un double sens, non pas en français mais en anglais, intelligence bien sûr au sens classique du terme, mais aussi intelligence en termes d'espionnage, hein, c'est-à-dire intelligence, surveiller les gens, les espionner, chercher des preuves, etc., pour trouver quelque chose, aspect évidemment qu'on trouve dans Le Prisonnier. La notion de surveillance ensuite, donc deuxième terme, qui est un aspect très important du dispositif répressif dans un certain nombre de sociétés depuis le XVIIIe siècle et le fameux panoptique de Jeremy Bentham, dont a parlé Michel Foucault dans différents ouvrages, en particulier Surveiller et punir, et ces avatars modernes. Donc on va trouver dans ces séries-là. Donc d'autre part, ce concept-là nourrit de très nombreuses fictions cinématographiques et télévisuelles depuis déjà un certain nombre d'années, évidemment. Bon, l'un des tournants étant peut-être les années 80, l'un des tournants, je dis bien, parce qu'il y a des choses avant, par exemple avec Brasil de Terry Gilliam, ou l'adaptation de 1984, qui est d'ailleurs les deux films ayant beaucoup de points communs. Bon, l'une étant rétrofuturiste, hein, pour reprendre le terme d'Étienne Barillier tout à l'heure. Alors, la première question que je voudrais poser à vous tous, à vous quatre, c'est comment finalement vous êtes rentrés en contact, hein, littéralement, avec ces séries des années 60. Est-ce que c'est parce que vous les avez vues, tout simplement, d'ailleurs en français ou en anglais? Est-ce que c'est parce que vous en avez entendu parler? Est-ce que c'est une image, une publicité, etc.? Donc, quel était le premier rapport avec ces séries et d'ailleurs laquelle? Alors, Sylvie, peut-être?
Le premier contact, c'est Chapeau melon et bottes de cuir. Quand j'étais gamine, devant la télé, comme je pense beaucoup de gens, et c'était, je pense, bien que j'en avais pas conscience à l'époque, un choc aussi bien esthétique que du point de vue des scénarios et de l'humour. La présence d'un duo qui était homme-femme, avec une dame, avec des dames qui étaient jolie, bien habillée, intelligente et active. Donc c'était une excellente surprise dans un paysage télévisuel par ailleurs assez morne.
On rentrera dans les détails après, mais par exemple, je note déjà cette présence, ce rapport homme-femme, qui est très importante, mais il y a eu plusieurs femmes, plusieurs partenaires de l'homme, du personnage masculin principal, John Steed, qui lui est resté le même pendant les séries, même s'il est monté en grade par rapport aux toutes séries noir et blanc qu'on n'a d'ailleurs pas souvent vues en France, qui n'ont pas été diffusées en France jusqu'à une date très récente. Et puis d'autre part, bien sûr, la question du costume, des couleurs, etc. Donc on va en reparler. Étienne ?
Oui, la même chose avec chapeau melon et bottes de cuir. Mais surtout, pour moi, le choc, ça a été Le Prisonnier. Mm-hmm. Quand il a été diffusé, alors je ne sais plus, c'était sur le samedi après-midi. Alors je ne sais plus si c'était temps X ou La Une est à nous. Alors ça me situe générationnellement. Pour ceux qui sont très jeunes parmi nous, je vous rappelle que nous parlons d'un temps où l'Internet n'existait pas, où si on ratait l'épisode qui a été diffusé, on était foutus. Et donc, oui, donc Le Prisonnier que je vois, qui m'explose totalement la tête, et dans lequel je me suis immergé pendant longtemps. Oui.
Oui, moi, c'est Le Prisonnier aussi. Enfin, mais moi, c'est carrément plus tard, parce que je suis beaucoup plus... jeune et fringant. Simplement pour moi, c'est enfin, clairement ces trois références, c'est des références rétro-historiques en fait. Enfin, j'ai découvert la série de télé en général sans vraiment me soucier de savoir ce qui était britannique et ce qui n'était pas. Et surtout, enfin, voilà, que ce soit Le Prisonnier, chapeau melon et bottes de cuir, pour moi, ça dénote, enfin, c'est quelque chose d'avant et qui dénote voilà, d'une certaine histoire de la série de télé britannique. Et c'est ça qui, à mon sens, est très intéressant. Pas tant dans Le Prisonnier qui a un côté un peu. Atemporel, enfin voilà, qui est une espèce de dystopie sans lieu et sans histoire, que Chapeau melon bottes de cuir, qui est très clairement une espèce de point culminant des 60s, voilà, avec les jupes en sky. Il y a quelque chose d'extrêmement temporellement marqué, même si c'est un temps mythifié.
Absolument. Je crois que ça me paraît très intéressant cette idée, enfin la différence entre les deux, effectivement. Et en particulier, donc, ce qui vient d'être dit sur le fait que Chapeau melon et bottes de cuir est à la fois une série très datée, effectivement, qui marque son temps, la modernité des années 60, et donc toute l'évolution des 60s en Angleterre à l'époque, et en même temps, une série qui navigue à travers les siècles, d'ailleurs au sens littéral parfois, donc, qui s'inscrit aussi dans une histoire britannique extrêmement mythifiée. Britannique, je dis bien, et pas anglais seulement, puisque l'un des épisodes, par exemple, se situe en Écosse, hein, dans un château hanté.
Ben moi aussi, pareil, j'ai grandi avec, et je grandis avec à un âge assez tendre, je pense que ça a laissé des marques. Et Le Prisonnier aussi, de la même façon, a été la grosse claque, probablement à un âge où j'étais peut-être pas en mesure de comprendre tout ce qui se passait. Moi, j'en retiens principalement, et ce qu'on retrouve aussi un peu dans Chapeau melon et bottes de cuir, un peu toutes ces choses-là, la création, peut-être, je suis pas spécialiste de la chose, mais peut-être pour la première fois à la télé, d'un espèce de vertige cognitif qu'on connaît bien dans la SF, où on est confronté à un mystère pour lequel... Effectivement, on a peut-être envie d'avoir une résolution, mais dont le plaisir du mystère et le plaisir d'avoir cette confrontation à des choses qui ne sont pas forcément explicables ou qui n'ont pas d'explication directement accessible et qui vont créer cette espèce d'esthétique du mystère, ce qui est avant tout présent dans Le Prisonnier, je pense, Emina, je parle sous le contrôle de notre Dickien résident, mais... qui est éminemment présente dans Le Prisonnier. Et ce plaisir-là, je pense, est une des pierres fondatrices, en particulier du Prisonnier, mais aussi de toutes ces séries-là. Et je pense que ça a eu un impact profond sur ce qui est venu ensuite.
Mm-hmm. Merci. Peut-être pour entrer un peu plus dans les détails, parlons du Prisonnier, mais je crois que ça vaut aussi pour les autres. Je voulais juste faire une remarque, enfin donner un détail par rapport au Prisonnier. Il y a quand même une série qui a été un peu les prolégomènes en quelque sorte du Prisonnier, c'est Destination Danger, qui est une série donc avec Patrick McGoohan en tant qu'acteur principal, donc celui qui sera le producteur et l'acteur principal du Prisonnier. Et cette série a été une longévité assez importante, et c'est une série qui se situe totalement dans le contexte de la guerre froide, et on va retrouver ce contexte dans Le Prisonnier, mais sous une forme évidemment beaucoup plus originale que dans la série initiale. Enfin, il faut pas oublier donc l'existence de Destination Danger, qui est aussi une très belle série. Voilà. Pardon, quelqu'un veut intervenir juste...
Oui, je voulais dire que moi aussi, j'ai été exposée aux prisonniers au même moment, à la même période que Chapeau Melon et Bottes de Cuir. La différence étant que je n'aimais pas le prisonnier. Ça me fichait la trouille, ce qui était le but, bien entendu. Et je n'aime pas avoir peur et je n'aime pas les ambiances paranoïaques. Donc, alors que j'avais vraiment pour Chapeau Melon... avec ses petits éléments science-fictifs, son humour, le côté britannique, etc., ça, j'adorais. Et le prisonnier, je le regardais, mais j'en garde en fait pas un très bon souvenir, et je ne l'ai jamais revu. Je n'ai pas cherché à le revoir, alors que j'ai revu des quantités d'épisodes de Chapeau et Melon et Bottes de Cuir, à la glorieuse époque où on était obligé d'enregistrer sur des cassettes vidéo. Parce que sinon, on n'avait pas les épisodes, on n'avait pas Internet. Et si on voulait avoir les séries, on était obligé de se débrouiller. Ben moi, je me rappelle qu'un copain m'a copié tous les épisodes de Chapeau Melon qui étaient passés sur FR3 ou sur Arte ou je ne sais plus où. Quoi. Cassettes qui ont fini à la poubelle quand j'étais dans mon dernier déménagement. Bon, bref. Ça, c'était pour l'épisode technologique. Et donc, j'ai vraiment le prisonnier, c'était une expérience extrêmement dérangeante avec parce que je ne comprenais rien. Cette histoire de... Mais pourquoi du comment de ce type et de ce truc, je ne captais rien. Et je ne voyais pas de point, je ne voyais pas le pourquoi du truc. Et maintenant, oui, je vois, on m'explique, etc. etc. Et puis, il y a tout le côté esthétique. Mais ça, en tant que spectatrice, je ne sais pas quel âge j'avais, j'imagine que j'avais entre 12 et 14 ans, ou 10 et 14 ans, vraiment, je suis passée totalement à côté. Tout en le regardant.
Oui, oui, bien sûr. Oui, vas-y.
Pardon, non, mais du coup, je trouve ça intéressant sur la question même de ce débat, parce que je pense que le prisonnier, c'est assez marrant, parce que c'est vraiment sur celui-là qu'on s'est tous arrêtés. Parce que c'est un exemple typique d'une anomalie dans l'histoire de la télévision, quand même. C'est que c'est une série qui, par sa radicalité, c'est à la fois dans un mode de diffusion qui vise un grand public et voilà, la télévision publique britannique, et qui a un parti pris narratif qui est totalement novateur pour l'époque et qui reste encore dérangeant maintenant, qui a été énormément repris du fait qu'il a défoncé un mur que personne ne savait qui existait. Mais du coup, voilà, la question de la série télé britannique, à mon avis, c'est aussi la question de savoir pourquoi est-ce que c'est à cet endroit-là que peuvent se produire des œuvres d'art radicales qui sont à la fois des produits de grande consommation et que voilà que et pourquoi ça se produit ici et pas ailleurs. Enfin, il y a quelques exemples de séries américaines qui ont fait ça, mais quand même massivement les séries anglaises l'ont fait régulièrement.
Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça? Mais moi j'ai noté effectivement ce rapport disons ambivalent, même moins de fait de ne pas aimer une série parce qu'elle fait peur effectivement. Et c'est vrai qu'il y a des objets par exemple comme cette espèce de ballon qui surveille et qui est accompagné d'un hurlement et qui est effectivement quelque chose de terrifiant, de cauchemardesque. Et je crois que la dimension cauchemardesque, onirique de cette série-là, comme d'ailleurs de Chapeau Melon et Bottes de Cuir, est tout à fait fondamentale aussi.
Non, il y a effectivement une créativité britannique qu'on ne trouve pas ailleurs. Autant les Américains sont très doués pour faire passer des choses de façon assez créative et subtile en sous-main dans une apparence qui va être... pour vraiment faire cliché, mais je pense que tout le monde va comprendre ce que je veux dire, très américaine, très hollywoodienne, très accessible dans la forme, mais derrière, il y a souvent une deuxième couche. Même quand on regarde les séries de Jerry Bruckheimer, dont on imagine qu'elles sont quand même relativement formatées dans le bon américanisme primaire, de temps en temps, il y a des discours qui ne sont pas aussi tranchés que ça. Alors que, effectivement, les Anglais ont vraiment une tendance à partir d'une exploration. Doctor Who, qui est une des séries les plus longues et quelque chose qui reste unique dans le monde. Aujourd'hui, on en parlait en off, il y a Black Mirror, qui est là encore unique dans la forme, parce que c'est une série d'épisodes, je crois que les saisons font 3 épisodes, pas plus, à chaque fois. En fait, c'est pas une série, ce sont des courts-métrages de 50 minutes à 1 heure sur une extrapolation glaçante et vraiment... assez choquante à la fois dans le discours et dans la forme, mais très interrogatrice et génératrice de questions sur l'extrapolation à très court terme de technologies qu'on a déjà.
Alors effectivement, on anticipe sur des séries contemporaines, mais c'est pas grave. Moi, ce que je trouve quand même intéressant, c'est cette distinction qui est faite entre Le Prisonnier, qui reste une série extrêmement homogène quand même, enfin, même s'il y a des épisodes qui n'ont pas été voulus, même si certains épisodes sont tournés au fameux village de Pays de Galles, Port Marion, qui est un lieu tout à fait extraordinaire, à la fois dans le temps et hors temps, enfin, qui comporte des éléments de différentes époques, et où les personnages effectivement du village, donc cette espèce de lieu à certains égards concentrationnaire dont on ne peut pas s'échapper effectivement, où la liberté n'est qu'apparente, et on est constamment sous surveillance. Donc il y a un décalage entre donc cette technologie moderne qui relève donc d'un univers dystopique. Hein, totalitaire, et en même temps donc cet univers du jeu permanent avec le jeu d'échecs grandeur nature par exemple, etc. Donc il y a quand même cette dimension du jeu, mais il n'y a pas l'humour qu'on a, effectivement, le décalage ironique, le pastiche, la parodie qu'on trouve dans Chapeau Melon et de Bottes de Cuir, ce qui fait peut-être que cette série est certainement plus accessible à un public plus jeune, disons, même s'il y a là encore plusieurs niveaux de lecture. Voilà. Donc, moi, je voulais peut-être qu'on parle un petit peu de ce qui vous rapprocherait de ces œuvres-là, de préoccupations dans vos œuvres respectives ou vos travaux respectifs. Par exemple, la question, justement, de la manipulation. Manipulation qui est aussi bien physique, mais surtout psychique. Et du rapport, par exemple, à la transplantation des rêves ou la manipulation des rêves, etc. Donc peut-être qu'on pourrait revenir un petit peu sur ces thématiques-là qui me paraissent très importantes, notamment dans Le Prisonnier. Étienne, peut-être ?
Là, je pense à l'épisode A, B et C.
Absolument.
Et bien si. Mm-hmm. Où justement, donc le personnage principal, toujours dans le but de le faire avouer pourquoi il a démissionné, sans que l'on sache jamais de quoi il a démissionné, est drogué et se retrouve projeté dans une réalité autre. Et il va, à la fin de l'épisode, rétablir le réel en s'emparant d'un miroir qui est accroché au mur, un miroir qui est de Guingois. Et il va littéralement redresser le miroir, donc rétablir la réalité. Mais la manière dont c'est filmé en vue subjective. C'est-à-dire que la caméra est à la place du miroir et c'est l'acteur qui empoigne la caméra. Donc en même temps que le personnage rejoint la réalité, c'est nous, spectateurs, qui sommes entraînés avec lui et à retourner dans l'univers de la prison qui est celui du village. Donc là, on est dans un niveau d'écriture, de mise en scène, de confiance dans le spectateur qui est un des sommets rarement atteints de la création télévisuelle. Je pense qu'il est au sommet de la montagne, dans une zone où l'oxygène se fait rare. Peut-être que Twin Peaks se promène autour de lui, mais il est bien seul sinon, parce qu'il y a vraiment un degré de confiance assez délirant. Il ne faut pas oublier que Patrick McGowan, le créateur et le scénariste et l'acteur principal, fuit l'Angleterre à la fin de la diffusion de la première saison, après que la production lui ait imposé un dernier épisode où il devait donner des réponses. Donc, épisode qu'il écrit en 48 heures, dans un état de délire un peu fou, qu'il tourne dans une espèce d'happening absolu, et qui est là aussi un sommet. Mais bon, ça, on pourra en parler tout à l'heure. Mais cette notion de liberté par rapport à ce que la personne peut dire. Peut-être que toutes les séries qu'on a évoquées tout à l'heure ont cela en commun, qu'il y a derrière un artiste, oui, au sens très large du terme, qui s'exprime, mais qui n'hésite pas à dire « je », plutôt que faire un produit de consommation générale, un produit pour la masse.
Oui, oui,
hein, c'est pas les experts.
Oui, oui, absolument.
Dans le côté britannique aussi, une qu'on n'a pas citée, si je ne me trompe pas, dans Le Saint, régulièrement, l'acteur s'adresse, brise le quatrième mur, et s'adresse régulièrement aux spectateurs au début de chaque épisode, un peu comme, c'est pas britannique, mais comme le faisait Rod Serling pour Twilight Zone. Donc il y a un jeu clair avec le spectateur qui est l'interrogation de la réalité, dans Le Prisonnier, j'entends, va dépasser le simple cadre de l'histoire qu'on raconte, effectivement.
Oui, alors, quelqu'un veut rebondir là-dessus ?
Non, je vais rajouter une référence dans la cocotte, comme ça on aura tout mis. Non, et après il y aura encore des choses à rajouter, mais à peu près à la même période, dans cette démarche, comment dire, dans la façon dont une chaîne de télé a pu encadrer des démarches artistiques radicales et où ça atteint les limites de leur tolérance d'ailleurs, parce qu'il y a, enfin, comme pour les prisonniers, il y a eu des problèmes, c'est les Monty Python qui ont, et là pareil, on se retrouve avec l'exemple de quelque chose qui n'existait absolument pas avant et qui est qui historiquement fait date parce qu'ils donnent à voir quelque chose que personne n'avait vu et qu'il y a un côté complètement iconoclaste, y compris sur le fait de se présenter comme des comiques.
Oui, non, mais effectivement, les Monty Python d'ailleurs utilisent aussi beaucoup la parodie et le pastiche. Hein, bon, et on sait ce que c'est devenu après, enfin, avec des auteurs, comme Terry Gilliam, qui au départ, bien sûr, faisait partie des Monty Python, était un des auteurs principaux des Monty Python. Pour avancer un peu, parce que effectivement, on pourrait parler très longuement du prisonnier, ne serait-ce que ça. Il y a une telle diversité thématique et en même temps, il y a des aspects formels très intéressants. Par exemple, le générique, qui est à la fois toujours repris et en même temps avec des variations perpétuelles. Donc, on peut s'amuser à jouer là-dessus, c'est-à-dire dire voilà, dans tel épisode, qu'est-ce qui change dans le générique du prisonnier. Et dans certains cas, il y a une séquence pré-générique avant d'arriver au générique lui-même. Alors, je ne sais pas si Étienne veut parler de ça.
Non, mais la dimension formelle. Non, c'est par rapport justement à la différence. Et là, ça peut intéresser les traducteurs, la VO et la VF.
Oui.
Parce que la première fois que j'ai vu le prisonnier, il y a ce dialogue entre le numéro 2, donc le chef du village, et le numéro 6. Toujours le même dialogue qui revient, sauf dans un seul épisode. Et avec la question forte, c'est donc qui est le numéro 1 ? Et l'autre qui lui répond, vous êtes le numéro 6. Oui, donc, ça. Who is number 1 ? Apprécier l'accent. Et la réponse, you are number six. Sauf qu'en anglais, c'est une virgule de différence. You are number six. Traduction, vous êtes le numéro six. Mais si j'ajoute une virgule, et des fois on a l'impression de l'entendre, ça devient you are number six, c'est vous l'êtes numéro six.
Absolument, oui.
Et dans ce cas-là, on est dans un moment où moi, en tant que spectateur, je suis devant un éventail de possibles qui ne me donne aucune réponse. C'est pour ça que je parlais d'intelligence hypothétique du spectateur à qui on pense qu'il est capable de faire le reste du chemin dans la participation qu'on attend de lui.
Tout à fait. Alors, pour aller dans ce même sens, et je te redonne la parole après, il y a une thématique, et là on va peut-être parler de vos œuvres aussi. C'est moi ce qui m'a frappé donc, par rapport à cette idée de mystification du spectateur, manipulation du spectateur, c'est la question du double. Dans un des épisodes, le personnage a un double. Et donc, on reste cependant avec le point de vue du personnage, mais à un moment donné, on a des doutes. On se demande qui est le vrai numéro 6, puisque tous les deux se ressemblent parfaitement. Il y a juste un petit détail, je ne vais pas spoiler, mais il y a un petit détail qui va permettre d'identifier le véritable numéro 6. Et donc, ce jeu sur le double, et donc tout ce qu'il fait pour identifier le double, c'est quelque chose qui va marquer profondément, je crois, l'imaginaire cinématographique et télévisuel dans les années à venir. Voilà, c'est des choses dont on retrouve l'héritage bien des années plus tard et jusqu'à aujourd'hui, me semble-t-il.
Non, c'est juste sur une question de traduction aussi qui malheureusement est un peu perdue en VF, c'est le célèbre bonjour chez vous dans Le Prisonnier, où tout le monde, quand il va faire ses courses sur le marché, tous les gens du village se saluent en disant bonjour chez vous en VF. Bonjour chez vous. Ouais. En anglais, c'est be seeing you. C'est-à-dire, à la fois le côté sympathique, nous reverrons à la prochaine, etc. Mais be seeing you, c'est avant tout, je vous vois, nous vous voyons, tout le monde se voit. Ce qui ramène au panopticon, d'ailleurs.
Oui, ouais, tout à fait. Oui, tu veux.
Ah, j'ai un rebond sur le panoptique, ça vient de me frapper. C'est le. Non, mais c'est. Il y a aussi ce fait. Parce que, pardon, j'ai essayé de réfléchir à pourquoi. Pourquoi l'Angleterre, quoi. Et il y a un événement quand même. Enfin, il y a un élément fort dans la culture britannique et en particulier à partir des années 60, c'est la mise en place de la vidéosurveillance massive. Enfin, c'est le pays, c'est à la fois le pays de la BBC, donc chaîne publique d'empire, enfin d'un ex-empire colonial avec la volonté, avec une espèce de volonté hégémonique de parler en langue anglaise à tous les publics de langue anglaise. Et en même temps, c'est la CCTV, donc c'est le fait d'installer partout des caméras de vidéosurveillance pour sécuriser. Mais y compris jusqu'à. Enfin, après, je ne sais pas à quel point c'est une légende, mais il y a quelques années, ils avaient fait une enquête sur les retraités britanniques qui viennent habiter en Bretagne, qui viennent acheter des propriétés. Donc il y a le coût du foncier, effectivement, qui est un truc attractif. Et il y a aussi le fait qu'ils ne supportent plus d'être sans cesse dans les lieux publics sous le regard des caméras de surveillance.
Bah, justement, sur le coup du panoptique, effectivement, je n'ai pas les éléments historiques, mais en tout cas, moi, je me place dans les 10-15 15-20 dernières années, rapport à tout ce qui concerne Internet, il y a quelque chose, je pense qu'il y aura quelque chose à développer pour quelqu'un qui a plus d'éléments que moi, mais il y a un truc très profondément ancré dans l'esprit britannique concernant cette histoire d'observation et de surveillance. Il y a, ça avait un peu choqué d'ailleurs, il y a à peu près 10 ans, je crois, l'Angleterre avait, ou la Grande-Bretagne avait ouvert une expérience comme quoi vous aviez accès au flux de CCTV en ligne, et si vous voyez quelque chose, vous aviez un bouton rouge pour aller dénoncer un truc que vous aviez vu qui était louche. Il y a aussi le fait que il y a le fameux firewall de David Cameron, qui est l'un des grands fantasmes des gouvernements actuels, en se disant on va bloquer à nos frontières tous les sites qui sont potentiellement louches, sachant que c'est prouvé que ces firewalls sont toujours des gruyères et bloquent exactement ce qu'on voudrait voir et ne bloquent pas ce qu'il faudrait bloquer si on décidait d'appliquer ça. Donc il y a effectivement quelque chose de et là je ne saurais pas aller plus loin, mais il y a un rapport fort.
C'est le rapport de la, qu'ils ont avec la chose publique et le bien public, qui n'est pas du tout le même qu'on a en France. C'est-à-dire que le rapport avec la communauté passe de personne en personne. En France, il transite par l'État. Parce que tout transite par l'État, bien qu'on ne veuille pas le dire.
Non, c'était juste sur la CCTV, parce que ça va mieux en le disant. Effectivement, le système de vidéosurveillance qui a été mis en place en Angleterre n'a rien à voir avec la conception qu'on a nous chez nous. En gros, on met des caméras pour que les flics puissent voir et qu'ils puissent intervenir. Le principe de la CCTV, c'est ça, c'est de mettre des caméras qui permettent aux citoyens de voir les citoyens. Enfin, c'est vraiment BBC News, en fait. C'est l'idée d'assurer une espèce de transparence qui permet de réguler le crime du fait qu'on fait tomber, qu'on fait tuber les murs. Mais effectivement, l'idée, c'est pas du tout que l'œil de l'État, enfin, c'est pas Big Brother au sens où il y a un dominant qui regarde.
Il y a au moins deux épisodes de Black Mirror où est traité ce sujet, dont le premier épisode, alors je sais pas si qui l'a vu, si je résume. En gros,
oui, bah, résume.
Faisons dans la délicatesse.
Dans la délicatesse.
Quelqu'un kidnappe une princesse royale et demande comme rançon que le Premier ministre se livre à un acte sexuel avec un cochon, ce qui sera diffusé évidemment sur Internet, et grâce à quoi la gentille princesse sera libérée. Il y a un gag, et je ne vous donne pas, parce que non seulement il y a tout ça. C'est super bien fait, super bien joué, absolument mené. Ça fonctionne, oui, tout. C'est vraiment magistral, à tout point de vue, du scénario, de la mise en scène, de la façon de filmer, etc. Et en plus, il y a un retournement à la fin. Et tout le sujet, c'est ça. C'est qui voit quoi, pourquoi, qui a du pouvoir sur qui avec les images. Et c'est totalement contemporain, quoi.
C'est ce qu'avait vu Orwell aussi concernant la société, où cette histoire de surveillance par pair, par les pairs, je veux dire, c'est Orwell dit expressément que si le système de 1984 tient, c'est justement parce que chacun, à son échelle, a un avantage à le maintenir. Et il n'y a pas finalement, le système n'est pas inféodé à une figure dont l'éviction pourrait conduire à son effondrement. Il tient justement parce que chacun, à sa petite échelle, le fait tenir.
Je veux dire un petit retour en arrière, parce que je trouvais que c'était très intéressant ce que vous disiez sur le caractère britannique des deux séries, je crois, qui est très différent. Alors d'un côté, effectivement, du côté du prisonnier, c'est peut-être plus au niveau de... Ben justement du rapport à l'État, hein, ce que tu disais, la responsabilité, etc. Donc un système très différent, très, très spécifiquement britannique. Bien sûr, les références aussi au monde de l'espionnage de l'époque, hein, le contexte de l'époque, la guerre froide, etc. Et dans Chapeau Melon et Bottes de Cuir, c'est plus ludique, effectivement, parce qu'on a les costumes, on a les couleurs, on a les lieux historiques, comme les châteaux ou le rapport au sport, etc. Donc on a deux rapports à la culture britannique et aux icônes culturelles britanniques qui sont très différentes, me semble-t-il.
Il y a un aspect espionnage et guerre froide, oui, dans Chapeau Melon, oui, mais oui, c'est vrai que c'est aussi pour en jouer, oui, alors que dans Le Prisonnier, c'est sérieux, quoi.
Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus sérieux, effectivement, et ça engage beaucoup plus le spectateur. Bon, alors c'est un terme bien connu. Enfin, on l'a dit sans le dire. Ce sont des séries qui ont une dimension réflexive, c'est-à-dire qui réfléchissent sur le médium, sur elles-mêmes, sur la manière de mettre en scène et de manipuler le spectateur. Je voudrais faire peut-être une, avant de revenir peut-être aux séries contemporaines et justement à cette question du spectateur ou de la surveillance dans le cinéma ou les séries télévisées contemporaines, faire un petit détour par les œuvres des uns et des autres. En citant simplement un extrait du dernier livre de Sylvie Denis. Et je voudrais après que vous réagissiez donc sur le fait que est-ce que ces séries télévisées, chacun d'entre vous, enfin, en particulier les trois auteurs, disons de fiction, ont influencé directement ou inconsciemment vos œuvres. Donc je vais juste citer cet exemple dans l'Empire du sommeil, qui est une dimension, quelque chose qu'on pourrait presque trouver à la limite dans Le Prisonnier si on ne disait pas la suite. Il donna un coup de poing dans le mur. Il n'était pas chez lui. Il était prisonnier de cette flatulence spatiale. Prisonnier où, d'ailleurs ? Il balança plusieurs coups de pied et de poing sur le mur de verre, prisonnier dans la baleine, quelque part dans l'espace, encore plus loin que chez lui, de chez lui qu'il ne l'était auparavant. Ensuite, évidemment, ça tourne à autre chose. L'opulent était un grand modifié interstellaire à qui ses propulseurs transdimensionnels permettaient de voyager parmi les mondes de la charte. Et ensuite, une douleur fulgurante remonta le long de sa jambe avec le dernier coup de pied. Ce fut comme un signal qui résonnait jusqu'au plus profond de lui-même. Il se vit se séparer en deux. Son double se jeta comme un forcené sur le mur en hurlant, tandis qu'il contemplait la scène, à la fois satisfait et concerné. Bon, bien sûr, j'extrapole, mais quand même, vous voyez le lien entre ce qu'on a dit jusqu'à présent, cette question du double, cette question de l'incarcération, de l'isolement, de la solitude, etc. Et donc, évidemment, des questions identitaires qui se posent là, et ce qu'on peut trouver dans Le Prisonnier, pour ne citer que celui-là. Donc j'aimerais que vous parliez chacun du rapport qu'entretient ces séries-là, Le Prisonnier mais pas seulement, avec votre propre œuvre, si vous y voyez quelque chose, un rapport quelconque. Alors j'ai cité Sylvie parce que ça me semblait...
Oui, voilà. Mais c'est vraiment très ponctuel, parce que c'est vraiment une situation du personnage au début du livre. Et de laquelle il sort assez rapidement parce que spontanément je n'aime pas les situations de personnages qui ne comprennent rien. Enfin, la situation du héros, du prisonnier, c'est vraiment des souvenirs hyper désagréables. Je vois pas le plaisir dans cette série. Je le comprends intellectuellement, mais pas du tout, pas naturellement. D'un autre côté, j'ai pas fait l'effort de regarder à nouveau des épisodes, mais vraiment, le type à qui on pose constamment des questions qui revient tout le temps, on sait pas pourquoi et on n'a jamais la réponse. Pour moi, c'est exaspérant. J'aime avoir des réponses. Donc il faut m'expliquer pourquoi.
Juste pour rebondir, parce que moi je suis exactement dans la situation inverse, où justement ce vertige cognitif que je disais tout à l'heure, où tout s'effondre, les choses n'ont pas de lien entre eux, il se construit là une ambiance, une atmosphère qui pour moi parle directement à quelque chose de reptilien. C'est le même vertige, c'est presque un vertige lovecraftien dans l'esprit, où on est confronté à quelque chose qu'on n'est pas forcément censé connaître et qui compose un tableau qui est plus vaste que nous. Et j'ai été nourri à ça, donc je pense que ça me frappe ce que tu disais tout à l'heure sur ABC, cet épisode où ça me fait me rendre compte que une des clés de la sans spoiler, mais une des clés de la conclusion de Léviathan se trouve justement dans un reflet dans l'eau. Donc il y a cette espèce de jeu de miroir et pour moi tutout ça touche à l'interrogation. Et ce que c'est éminemment dickien, le rapport à la réalité et du coup le rapport à soi, qu'est-ce que je regarde l'abysse me regarde à son tour, etc. Le rapport à la réalité qui définit le rapport à soi et inversement, pour moi il y a quelque chose de très viscéral là-dedans et qui parle à mon sense of wonder de l'imaginaire, et c'est clairement au centre de Léviathan, oui. Alors je dis pas que Le Prisonnier est... mais je pense que ça m'a ouvert à ça quand j'étais môme.
Merci.
Et alors que moi, c'est l'inverse de l'inverse. Quand on a toutes les positions. Non, mais en tant que spectateur, moi, je reconnais absolument la. Enfin, je reconnais. Je suis touché, mais c'est par la puissance du prisonnier, mais en même temps, en tant qu'écrivain, c'est pas tellement ça qui m'intéresse, parce que le prisonnier présente une situation... comment dire, la puissance de la situation repose sur sa pureté, en fait, repose sur le fait qu'il n'y a pas d'explication, mais repose aussi sur le fait que, voilà, que les gardiens sont abstraits, que tout est abstrait et hors du temps et hors de la société en réalité. Et du coup, sur ces questions-là, qui sont à mon sens des questions politiques, sur l'enfermement, la surveillance, je vois ce que ça fait comme œuvre d'art et ce que ça questionne, qui sont des questions d'ordre plus métaphysique, on va dire, vraiment sur la nature de l'humain, mais en même temps je trouve pas ça super satisfaisant en tant que créateur, parce que ça ne met pas la dimension culturelle, l'endroit où on pense, en fait, c'est l'endroit où on commence à penser la série dans le monde, c'est comment elle a été produite, etc. Mais la série elle-même ne présente pas exactement une réflexion, voilà. Alors que je pense, par exemple, que les situations d'enfermement qui sont organisées, qu'on vit, etc., n'ont pas de loin pas cette perfection, quoi. Et je pense surtout que c'est pas du tout un objectif à atteindre, qu'on vit dans un monde de bricolage, et que donc du coup on se fait des histoires, on peut créer des histoires dans lesquelles les choses fonctionnent parfaitement et regarder comment la petite machine des choses parfaites fonctionne, mais en même temps c'est pas ça qui m'intéresse en tant qu'artiste.
D'accord. Mais je voulais quand même poser la question à Étienne, même s'il n'est pas dans la même problématique. Mais voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est comment il y a eu cette espèce de changement relativement récent, qu'on s'est intéressé, enfin que ces séries, par exemple, parlaient de notre époque tout en la déplaçant de différentes manières. Mais enfin, en gros, c'était les préoccupations de l'époque et le contexte historique, idéologique, etc. de l'époque. Alors que, par exemple, depuis quelques années, dans la littérature, les arts, etc., le cinéma, on fait une sorte de retour nostalgique, donc rétro-futuriste, au 19e siècle, et à l'âge de la machine à cette époque-là, dans une perspective, je dirais, qui est à la fois ludique, mais aussi politique. Et j'aimerais peut-être que tu nous parles de ça,
Oui, mais pour développer ce que... Enfin, peut-être pour ajouter ma pierre à ce que tu disais, Le prisonnier est une série qui fait travailler sur la métaphore. Or, actuellement, si on regarde des séries paranoïaques à la télévision, et il y en a, pensons au succès d'Homeland, par exemple, nous sommes dans une approche naturaliste et il n'y a strictement aucune métaphore. Ce qui fait que on est dans une espèce d'immédiateté qui fait que... Et maintenant, pour venir à ta question, il est certain que l'approche rétrofuturiste va s'accentuer. Actuellement, n'est pas présente à la télévision en tant que telle, si ce n'est que par des teintes qui commencent à apparaître. Je pense que j'attends de voir ce que va donner la série télé de l'Armée des 12 singes, qui va être diffusée donc à partir de l'année prochaine. J'ai vraiment peur, mais, voilà, je suis curieux de voir ce que ça peut être. Je suis curieux de voir ce que va donner la série télé de Ridley Scott, Le Maître du Haut Château, ouais, qu'il tourne pour Amazon. Donc là, on peut avoir peur. Parce que j'essaye de me rappeler quand est-ce que Ridley Scott a fait un film intéressant et je n'ai pas la réponse.
C'était pas Prometheus, en tout cas.
Et ça ne sera pas Blade Runner 2. Et toujours avec Philippe K. Dick, nous avons la série télé de Spielberg, donc Minority Report, qu'il est en train de produire. Et là aussi, on va se retrouver encore une fois dans un fantasme totalitaire et paranoïaque, mais avec un retour. Alors, on ne retourne pas jusqu'au 19e, mais c'est un retour sur l'imaginaire des années 60, qui, lui, revient vraiment en force. Et c'est pour ça que je suis convaincu que le pas suivant, ça va être le pas qu'a déjà accompli Alan Moore, donc avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, où lui, il partait donc de son groupe de super-héros, entre guillemets, du 19e siècle, pour de volume en volume embrasser la totalité de la création littéraire et artistique et embrasser toutes les formes de fiction possibles et imaginables. Donc le monde de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est un monde où se retrouvent toutes les fictions possibles.
Absolument.
Et on y croise Emma Peel, et on y croise aussi Fantomas. Donc c'est une œuvre parfaite.
Oui, Jekyll et Hyde, etc. Oui, absolument.
Juste, sur les, au public, mais juste du coup sur justement les codes de la surveillance de ces choses-là dans la création télévisée aujourd'hui, je pense qu'on, même si c'est pas britannique, pas du tout, je pense qu'on peut pas parler d'intelligence et de surveillance dans la série télé sans mentionner Person of Interest, qui sous des abords est vendu au public avec une grand, public américain avec une grande intelligence comme étant du thriller, du detective story, de l'enquête avec un ancien barbouze de la CIA, est avant tout une série sur l'intelligence artificielle et sur la singularité. Et c'est absolument remarquable parce que c'est une série de SF et il y a des scènes, je ne dévoile pas, mais il y a des scènes et des plans de SF qui sont parmi les plus beaux qui personnellement m'ont été donnés de voir ces derniers temps, mais qu'on ne déchiffre que si on a les codes. Et c'est un bonheur et c'est fait avec une énorme intelligence. Et là, pour le coup, on nous présente, ça parle d'IA en fait en réalité, mais on nous en présente en se fondant sur ce qui se passerait aujourd'hui, en imaginant, c'est un peu quelque chose de c'est un peu une ancienne de la SF, mais l'intelligence émergeant du réseau, et qui nous en présente une qui est définitivement différente de l'intelligence humaine, mais dans un contexte extrêmement contemporain d'affaires de flics pourris, de corruption, de trafic de drogue, etc. Et on est à New York aujourd'hui. Et alors, et c'est d'autant bien fait qu'en général, les fans de SF, quand on leur recommande, ils lâchent au bout d'une demi-saison parce qu'ils disent que ce n'est pas une série de SF. C'est dire comme c'est intelligemment fait, parce que ça la vend aux gens qui ne lisent pas qui ne vendent pas de SF, qui n'en lisent pas, qui n'aiment pas ça, et qui se font attraper dedans, et on leur vend totalement une série de SF en leur disant « Ne vous inquiétez pas, c'est du thriller ».
Merci. Bon, est-ce qu'il y a des questions donc aux différents intervenants par rapport à ce qui a été évoqué ? Peut-être vous-même avez d'autres exemples de séries télévision. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de questions ?
Moi,
j'ai une réponse. Oui, ouais, bah, si. Alors, il y a une réponse.
moi, je vais vous apporter une réponse. Non, c'est juste un aspect qu'on n'a pas abordé, mais je reviens toujours dans mon sillon. Hein. Mais les conditions d'apparition de ces séries télé intelligentes britanniques par rapport à d'autres contextes. Et peut-être une piste que je soumets, c'est une question, mais c'est le fait que jusque dans les années, je crois à la fin des années 60, en fait, il n'existait que la BBC comme télévision britannique. Donc c'était uniquement, enfin ils avaient 4 chaînes, mais c'était uniquement du service public, et ils avaient une redevance télévisée qui était très élevée. Donc en fait c'était une chaîne qui était très bien financée par les spectateurs, et ils avaient aussi un budget relativement conséquent, donc ce qui leur permettait une certaine marge de manœuvre. Après, il y a autre chose à mon avis qui est en jeu, c'est, alors là on sort complètement de la fiction, mais je ne sais pas si vous voyez cette série de documentaires animaliers, enfin documentaires naturels qui s'appelle Planet Earth, qui est une espèce de nébuleuse en fait. Ils ont fait des épisodes extrêmement impressionnants qu'ils ont servi comme des condensés, et puis après il y a des dérivés. Alors voilà, on peut regarder pendant une heure et demie le saumon qui fraye dans la rivière, qui remonte. Et en fait, si on met en parallèle avec les... En France, on aime bien faire des longs métrages financés par Elf et Areva, avec genre Océan, Microcosmos, tout ça, et se vanter d'avoir le top de la technologie pour faire ça. En fait, la BBC fait ça en mieux depuis vraiment des années. Enfin, je pense que techniquement, ils sont les meilleurs. Mais pour une raison assez simple, enfin une construction économique assez simple, c'est qu'ils font ça pour la télévision, ils gardent les meilleures images, ce qui est le plus télévisuel pour la télévision, mais les milliers et les milliers d'heures de rush qu'ils réalisent à côté, sur le terrain, par les meilleurs professionnels du milieu, sont utilisés pour la recherche scientifique. Donc du coup, il y a une mise en commun, en tout cas, des moyens entre la recherche scientifique et la télévision, qui fait que... Voilà. Donc peut-être qu'il y a une intelligence dans la façon de considérer la télévision, le mode de création culturelle, comme faisant partie d'un tout, faisant partie d'un véritable service public, en fait.
Du coup, je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, j'en profite, sur le prisonnier. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu disais que c'était l'inverse de l'inverse, sur le fait que il y a la nature discursive du prisonnier et potentiellement sujette à interrogation. On ne pourrait plus. C'est toutes ces séries-là qui font effectivement date et qui ouvrent quelque chose, mais sur lequel après il faut aller plus loin, parce que on tournerait et on projetterait le prisonnier aujourd'hui, on hurlerait au syndrome Lost. Beaucoup de bruit pour pas grand chose, et c'est justement parce que ce sont des jalons, mais c'est un jalon, c'est fait justement pour ouvrir quelque chose, et après il faut on construit sur ces bases là bien sûr.
Bon, est-ce que... pour terminer sa phrase, parce que il y avait une virgule avec le créateur du prisonnier, Patrick McGowan, qui choisit le silence. Ouais. Donc il fait un peu de théâtre, il fait deux films, quelques épisodes de Columbo, parce qu'il était un copain avec Peter Falk et que l'autre lui disait « viens tourner avec moi ». Mais c'est tout. Et il ne s'est jamais expliqué et n'a jamais pu tourner le long métrage qu'il avait commencé à écrire avec Mel Gibson il y a de cela 20 ans.
McGowan, qui nie d'ailleurs une filiation entre Dangereusement Vôtre et Le Prisonnier, il dit non, c'est pas la suite. Alors que pourtant, quand il joue le numéro 6, il ne change pas de tenue vestimentaire. Il fait tout ce qu'il peut pour poser les questions et surtout éviter toutes les réponses. La seule réponse qu'il donne, je crois que Le Prisonnier a fait quelque chose comme 17 épisodes, mais qu'en fait c'était censé être 7 à la base. Et tout ce qu'il fait, c'est donner la liste des épisodes qui pour lui donnent l'essence de la série. Après, débrouillez-vous avec ça.
Est-ce qu'il y a des questions donc, suite à ces compléments d'informations? Bon, moi, je pense que enfin, ce que cette série pose aussi, c'est peut-être la dernière question, c'est la question du spectateur. C'est-à-dire que dans Le Prisonnier, on avait cet aspect-là, par exemple, c'est-à-dire le spectateur était renvoyé en quelque sorte à son propre rapport à l'image. Mais je crois que c'est peut-être ça qu'il y a un degré supplémentaire qui a été franchi par des séries comme Black Mirror. C'est justement là, on interroge véritablement. D'abord, on n'est plus dans la surveillance, on est dans ce que certains théoriciens appellent la sous-veillance, c'est-à-dire que ce n'est plus un individu qui surveille un certain nombre, par exemple comme le système panoptique, mais cette fois, ce sont potentiellement tout le monde qui surveille tout le monde, ou tout le monde qui surveille un individu, comme dans le cas du premier épisode de Black Mirror.
Black Mirror prend en compte l'état de la technologie tel qu'il est maintenant, c'est-à-dire avec Internet, avec les téléphones portables, avec toutes ces genres de choses. Donc, c'est totalement contemporain.
Oui, tout à fait.
C'est vraiment, de ce point de vue-là, une excellente série de science-fiction à court terme, mais de science-fiction, il n'y a pas de problème.
Oui, absolument. Et le troisième épisode, je crois, donc, je crois que c'est quelqu'un qui a une puce enregistrée, c'est ça ? Enfin, une puce dans le qui lui permet d'enregistrer de ses souvenirs.
C'est des lentilles à la Google Glass, plus puissant, qui permet en fait de filmer tout, et c'est dans la saison 2, ça.
Dans la saison 1, il y a un épisode aussi avec quelqu'un qui a une puce implantée qui lui permet d'enregistrer les souvenirs et qui va développer une paranoïa.
Il y a aussi l'épisode où il y a des gens qui jouent à des jeux et qui, grâce à ça, réalimentent leurs comptes et sont constamment filmés alors que pendant qu'ils jouent et pendant qu'ils pédalent sur leur vélo, ce qui est assez...
Ils pédalent pour générer de l'énergie, voilà, et du coup, leur tour de pédale, c'est la monnaie. Et le truc suprême, c'est de réussir à être pris dans l'équivalent local de The Voice, ce qui coûte 3 millions pour entrer, et devenir la star et pouvoir s'affranchir de la bicyclette, ce qui est assez glaçant.
Oui. Je vais revenir encore sur mon sillon, sur Black Mirror, c'est super. Mais non, parce que Black Mirror est, à mon sens, c'est une série géniale parce qu'elle est parfaitement faite. Enfin voilà, c'est parfaitement écrit, c'est parfaitement joué, ça repose sur des très bonnes idées qui sont parfaitement exploitées. À un moment, dans chaque épisode, il y a un moment très... qui ça change profondément du Prisonnier, à mon sens. Il y a des moments un peu Lars von Trier, c'est-à-dire des moments où, en plus, en tant que spectateur, on te met le nez dedans, quand on te dit « Regarde, c'est vraiment dégueulasse », et tu regardes ça, et tu trouves ça cool. Enfin, donc ça, ce qui, moi, me paraît assez discutable en tant que spectateur, parce que là, comment dire, c'est à la fois de la manipulation et montrer la manipulation. Donc, moi, je commence à trouver ça borderline. Et en plus, l'autre truc qui est extrêmement inquiétant, enfin, qui, moi, je trouve très bizarre sur Black Mirror, c'est que les producteurs de Black Mirror, c'est Endemol. Et du coup, quand Endemol sont à la pointe de faire la critique de la société du spectacle, de notre asservissement par les technologies, en utilisant à la perfection les technologies et le spectacle, et en plus en montrant, parce que dans cet épisode où il pédale, en fait, il faut accéder à The Voice, et à un moment, le type dit « je vais subvertir le système de l'intérieur », et il fait un espèce de show, et c'est absolument, c'est une performance d'acteur incroyable, et où il dit « voilà, je suis arrivé jusque-là, c'est juste pour vous montrer à quel point ce système est pourri et tout ça, quoi ». Et il y a un silence atterré, donc en tant que spectateur, on est là, on jubile, on dit « yes », il est en train de détruire le truc, et il y a silence atterré, et là, il y a les 100 000 spectateurs qui applaudissent, exactement comme toi, spectateur, tu viens d'applaudir à cette tirade, et le mec est récupéré immédiatement par le système, et il devient une star de... Donc du coup, à mon sens, Black Mirror, c'est une espèce de frontière, parce que la dénonciation du jeu pervers est elle-même un jeu pervers absolument parfaitement maîtrisé, et par, à mon avis, des gens qui eux-mêmes ont pour profession de monter des jeux pervers. Donc,
Ils sont eux-mêmes pervers.
C'est l'essence même du capitalisme. C'est de pouvoir tout recycler, y compris sa propre critique. ferme la parenthèse.
Oui, non, mais je crois que c'est quand même, c'est assez là l'aspect politique, effectivement. On peut se demander, on a l'impression, comme ça, d'une dénonciation effectivement politique, des dérives et tout ça, et en même temps, comme tu dis, ce sont des gens qui véhiculent, c'est en démol en particulier, donc effectivement, c'est très ambivalent au niveau du discours. D'autres... des questions, pardon, des remarques? Oui, je crois que ça fait...
Bonjour. Est-ce que vous serez capable d'écrire un livre où justement vous n'expliquez rien?
Vous pouvez répéter.
D'écrire un livre où justement vous ne faites que d'écrire, mais il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de. Enfin, il y a juste un contexte, mais il n'y a pas de.
Moi, je fais qu'une réponse. Je fais ça tout le temps. Je ne sais pas en écrire d'autres, en fait.
Ça m'est arrivé en nouvelle. Je pense que tout dépend de l'histoire qu'on raconte et tout dépend de l'expérience qu'on cherche à susciter. Pour moi, la forme est indissociable du fond et par conséquent, si la forme consiste à rien expliquer, c'est que ça va servir mon fond. Donc tout revient au projet de ce qu'on cherche à faire vivre au lecteur. Donc pourquoi pas. Ça m'est arrivé un peu en nouvelle de faire des choses... notamment des hommages à Kafka, où le but est un peu de laisser le lecteur y comprendre ce qu'il veut. Et de façon générale, j'aime bien laisser le lecteur faire son avis et choisir le camp qu'il veut. Et si possible, le mettre mal à l'aise dès qu'il a choisi un camp, pour lui montrer que l'autre était peut-être pas mal aussi. Et dès qu'il a changé de camp, faire l'inverse. Ce qui me vaut soit de l'affection, soit beaucoup de malaise en général. Mais bon, c'est le jeu et c'est un des jeux de la fiction. Donc oui, tout dépend de l'intention derrière. Je pense que tout revient à l'intention en général.
Sylvie, tu veux réagir par rapport à...
Non, je suis entièrement d'accord avec Lionel. Tout dépend du texte qu'on a envie d'écrire. Si on a envie de placer le lecteur dans une position d'interrogation, de mystère, etc., ben évidemment, on va pas donner toutes les clés. Moi, c'est quelque chose que j'ai assez peu tendance à faire, je pense. Mais parce que j'écris peu de vrais fantastiques. J'ai écrit une nouvelle qui est du vrai fantastique, où effectivement, il se passe à la fin quelque chose qui est totalement étrange, bizarre et non expliqué. Mais genre, je l'ai fait qu'une fois. Mais je savais très bien ce que je faisais. Ça, c'est... Oui. Voilà. Je ne sais pas si...
Je crois qu'il faut arrêter. Bon ben, merci beaucoup aux quatre invités et au public. Merci.